Laudetur Jesus Christus.
Le pacte vert européen détricoté à la Commission, officiellement pour simplifier et relancer l'économie. Nous serons à Bruxelles dès le début de ce journal. L'Europe, à nouveau attaquée en règle par Donald Trump, qui estime que l'UE a été créée contre les États-Unis. Il annonce 25% de taxes sur les produits européens. Dans notre dossier en fin de journal, nous resterons dans la thématique transatlantique. Les États-Unis tentent à ne plus protéger l'Europe militairement, mais celle-ci a-t-elle seulement les moyens et les ambitions d'assurer sa propre défense? La réponse à suivre. Et nous reviendrons également sur les tensions entre la France et l'Algérie. Et puis nous irons au Soudan. L'ONU annonce à son tour quitter le plus grand camp de déplacés du pays pour cause d'insécurité.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Avant de développer les titres, les dernières nouvelles concernant l'état de santé du pape François. La nuit s'est bien passée, vient-on d'apprendre. Il continue sa convalescence en se reposant à l'hôpital. Hier, le scanner montrait une évolution normale de l'inflammation pulmonaire. L'insuffisance rénale constatée ces derniers jours s'est résorbée. Les analyses sanguines sont bonnes. Hier après-midi, François continuait ses activités. Le pronostic reste cependant réservé. Selon les défenseurs de l'environnement, c'est un affaiblissement historique des normes environnementales et sociales en Europe. Hier, la Commission européenne présentait un texte baptisé Omnibus, un projet pentagruélique de simplification tous azimuts. Le CCF des Terres solidaires y voit une dérégalisation massive sans précédent, un désastre pour la transition climatique et pour la protection des droits humains et de l'environnement. Mais à la Commission européenne, ceux qui portent ce texte, dont la France, voient dans Omnibus l'occasion de redonner de l'élan à une politique européenne essoufflée. Les explications à Bruxelles de Pierre Benazet.
Réduire d'au moins un quart le fardeau administratif qui pèse sur les entreprises, voilà l'objectif du toilettage proposé par la Commission européenne. Il devrait faire économiser chaque année 6 milliards d'euros en frais administratifs. Parmi les allègements prévus, 4/5 des entreprises, les moins grandes, n'auront plus à remplir les rapports de durabilité environnementale. De même, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ne concernera plus les entreprises qui importent moins de 50 tonnes par an. Il s'agit de 90% des entreprises, mais de moins d'1% des émissions de CO2, souligne le commissaire européen Stéphane Séjourné. Il veut réfuter les accusations des ONG, selon qui c'est une trahison des objectifs environnementaux.
Ça serait vrai si on revenait sur nos objectifs de transition. Et c'est pas le cas. Les objectifs sont toujours les mêmes. On ne propose pas de déréguler, mais on se propose de changer également le chemin et les procédures pour arriver à ces objectifs. Moi, je vois pas dans les textes qu'on propose de la dérégulation. Je vois de la simplification pour les entreprises. Je vois aussi du bon sens.
Et la Commission assure que son plan pour une industrie propre permettra de mettre sur le marché des produits qui impliquent beaucoup moins d'émissions de CO2. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
4 mois après les échecs des discussions sur la protection de la biodiversité à Cali en Colombie, les négociateurs se retrouvent à Rome en Italie pour une ultime bataille sur le financement. Il s'agit de trouver 200 milliards de dollars par an d'ici 2030, injectés dans un fonds pour mettre fin à la déforestation et à la surexploitation des ressources. Mais les négociations sont difficiles dans un contexte mondial où le multilatéralisme et la défense de l'environnement sont mises à mal. Ce qui nous amène aux États-Unis. Hier soir, c'est Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, bras droit de Donald Trump, qui a inauguré la toute première réunion du cabinet gouvernemental du nouveau président américain. Une séance haute en couleur, en présence des ministres, lors de laquelle le président a multiplié les mensonges et les attaques en tout genre, et des attaques en particulier contre l'Europe, que le patron de la Maison-Blanche menace à nouveau de droits de douane massifs. À New York, Loïc Loury.
À entendre Donald Trump, la décision est prise. Ce sera 25% de taxes sur les produits européens prochainement, dit-il sans plus de précision. Une punition contre ce vieux continent à qui le milliardaire continue de tourner le dos. L'Union européenne a été conçue pour emmerder les États-Unis. Soyons honnêtes, l'UE a été conçue pour emmerder les États-Unis. C'est son objectif. Et ils ont fait du bon boulot jusque-là. Mais désormais, je suis président. Une Europe exclue de ces négociations avec Vladimir Poutine sur l'Ukraine, mais qui aura la charge, assure-t-il, d'apporter des garanties de sécurité à Kiev pour l'après-guerre. Je ne vais pas apporter grand-chose en garantie de sécurité. Nous allons demander à l'Europe, parce que, vous savez, l'Europe, c'est leur voisin immédiat. Quant à une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, vous pouvez oublier, tranche Donald Trump. Demain, c'est dos au mur, mais sans certitude d'obtenir quoi que ce soit, que Volodymyr Zelensky se rendra à Washington, où il pourrait brader une partie des ressources naturelles de son pays pour s'attirer les bonnes grâces de l'Amérique. New York, Le Éclairé, Radio Vatican.
Quatre corps d'otages israéliens morts à Gaza échangés cette nuit contre 600 prisonniers palestiniens. C'est le dernier échange prévu dans le cadre de la première phase de la trêve négociée via le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Cette première phase doit se terminer samedi. Elle a permis la restitution à Israël de 33 otages, dont 8 décédés, et la libération de 1700 prisonniers palestiniens. Quant au terme de la deuxième étape du cessez-le-feu, qui débute donc dimanche, il n'aurait toujours pas été négocié. Direction maintenant la France. L'Hexagone accentue ses pressions pour tenter d'obtenir plus de coopération en matière migratoire de la part de l'Algérie. Le ministre français des Affaires étrangères révélait mardi que des mesures de restriction d'accès au territoire français visent déjà des centaines de membres du régime algérien, et cela depuis plusieurs semaines. Les précisions de Marie-Christine. Christine Bonzon.
Le Premier ministre souligne, et je cite, que Paris n'a pas de volonté d'escalade des tensions avec Alger, mais qu'elle ne peut pas accepter une situation que François Bayrou qualifie de dommageable, et pour les relations entre l'Algérie et la France, et pour la société française. Le comité interministériel, présidé par le chef du gouvernement, s'est tenu moins d'une semaine après l'attentat meurtrier perpétré à Mulhouse par un islamiste algérien en situation irrégulière, qui avait pourtant l'obligation de quitter le territoire français. Les victimes de cet attentat sont les victimes directes du refus d'application de l'accord de 1968, a estimé le chef du gouvernement, avant de rappeler qu'avant l'attentat, l'Algérie avait refusé de reprendre ce ressortissant pas moins de 14 fois. L'accord de 1968 accorde un régime d'immigration très favorable aux Algériens qui veulent s'établir en France. François Bayrou veut, et je cite, le réexaminer dans un délai maximum de 6 semaines. Il indique aussi que son gouvernement va remettre aux autorités algériennes une liste d'individus qui doivent quitter la France et retourner d'urgence en Algérie. Monsieur Bayrou ajoute que si l'Algérie ne répondait pas favorablement à la France, la dénonciation de l'accord serait la seule issue possible. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
En RDC, la CENCO, la Conférence épiscopale des évêques, fait part de sa colère après les difficultés rencontrées par Monseigneur Donatien Cholet, le secrétaire général de la CENCO, à l'aéroport de Lubumbashi. Son passeport a été confisqué pendant 1 heure, dit un communiqué partagé hier soir. La CENCO parle d'une entrave à la liberté de circulation d'un prélat de haut rang. C'est un camp qui abrite au moins 1,5 million de personnes dans l'ouest du Soudan, celui de Zamzam. Après MSF, Médecins sans frontières en début de semaine, c'est au tour du PAM, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, de devoir suspendre son aide dans le camp de déplacés. En cause, les attaques des forces de soutien rapide qui menacent la sécurité des travailleurs humanitaires. À Addis Abeba, Augustine Passy.
C'est un nouveau coup dur pour le million de Soudanais qui ont trouvé refuge dans ce camp situé au nord d'Arfour. Ce mercredi, le Programme alimentaire mondial déclare quitter Zamzam en raison de l'escalade de la violence de ces 2 dernières semaines. Il y a 2 jours, l'ONG Médecins sans frontières a également annoncé son départ. Arrêter nos activités en pleine catastrophe qui s'aggrave à Zamzam est une décision déchirante, regrettait le chef de mission Yahya Khalilal. Ces départs sont causés par les attaques répétées menées par les forces de soutien rapide dans le camp et aux alentours. Or, la situation humanitaire est déplorable à Zamzam. C'est la première zone où la famine a été déclarée dès août 2024. De nouveaux déplacés arrivent chaque jour pour fuir les violences perpétrées à El Fasher, la dernière grande ville du Darfour qui résiste à l'armée, mais aussi dans les villages voisins. Hier, j'ai échangé avec Souhad Youssif, qui m'expliquait que certains soirs, elle couche ses 6 enfants sans avoir rien mangé de la journée. « Nous ne sommes pas en sécurité à Zamzam. La semaine dernière, ma fille s'est cassée la jambe en courant pour échapper à un bombardement », témoigne cette mère qui compte parmi les plus de 12 millions d'individus jetés sur les routes à cause de la guerre qui dure depuis bientôt 2 ans. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
« Nous vous en parlions tout à l'heure, la politique agressive du nouveau président américain pousse l'Union européenne dans ses retranchements. En début de semaine, un vote commun des États-Unis et de la Russie sur l'Ukraine a scellé symboliquement la fin annoncée de l'alliance transatlantique née après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont pourtant un pilier indispensable à la survie de l'Union européenne, déjà bien sûr en matière de défense via l'OTAN. Donald Trump a déjà laissé entendre que les États-Unis pourrait ne plus s'engager à protéger les autres membres de l'Alliance en cas d'attaque, une obligation pourtant prévue par le traité de l'organisation. Alors le dossier de la défense européenne est un serpent de mer, mais aujourd'hui, les Européens partagent-ils la même perception des menaces à leur rencontre? Quelles sont les options de défense? La réponse de Gesine Weber, chercheuse en sécurité et défense européenne.
Il y a actuellement une convergence assez importante entre les différents États européens en ce qui concerne la perception des menaces. À la fois la menace que constitue la Russie, mais aussi la menace que constitue un potentiel abandon par les US. Donc les Européens sont tous à peu près d'accord sur la nécessité qu'ils doivent faire plus, qu'ils doivent aussi penser à leur propre capacité de dissuasion et de défense collective. Mais il y a toujours des divergences sur le schéma, comment on peut y arriver. Vous avez la Hongrie qui, en général, bloque les idées les plus ambitieuses par rapport à la défense européenne, que ça serait plutôt soit dans les accords bilatéraux, soit dans une sorte de coalition des pays volontaires et capables. Mais personnellement, je ne vois pas un tel accord dans le cadre de l'Union européenne, même si l'Union européenne dispose d'une clause d'assistance mutuelle. C'est l'article 42.7 du traité de l'Union européenne.
Donald Trump demande aux pays européens d'augmenter à 5% du PIB leur contribution au budget de l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, invite également les Européens à dépenser beaucoup plus. Mais est-ce que c'est seulement réalisable?
Il est très difficile à imaginer que les États européens, individuellement, puissent augmenter leur budget de défense de manière si considérable, surtout à 5% dans la plupart des pays européens, peut-être à l'exception de la Pologne, qui presque atteint ce seuil, c'est plutôt illusoire. Donc on se dirige plutôt vers peut-être 3%, 3,5%, mais 5% c'est extrêmement difficile. Et même 3%, pour cela, l'Union européenne pourrait jouer un rôle assez important, par exemple par un endettement commun, comme on l'a vu par exemple pendant la crise Covid, pour ensuite financer des projets de défense commune.
Une des pistes de solution mises en avant par la France, mais aussi par l'Allemagne, c'est l'extension du parapluie de dissuasion nucléaire français. Est-ce que ça peut être une piste sérieuse?
Le président Macron a déjà plusieurs fois mentionné la possibilité de discuter de la portée européenne, ou plutôt de la dimension européenne, des armes nucléaires françaises. Oui, et aussi de la dissuasion nucléaire française. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément eu des discussions à très haut niveau politique sur cette question. Donc, évidemment, cette question revient, mais elle reste un peu l'éléphant dans la salle et la question n'est pas du tout tranchée. Il me semble plutôt exclu que la France mette les décisions sur l'usage de l'arme nucléaire française entre les mains des autres pays membres. D'un point de vue plus large, la question se pose aussi pour la dissuasion nucléaire britannique. Et là aussi, on n'a pas forcément de solution. C'est aussi une question de masse et de quantité, parce que les Américains disposent de 5000 têtes nucléaires. Pour la France et le Royaume-Uni ensemble, c'est un peu plus que 500.
Philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire finalement sur la mentalité des Européens, cette volonté, ce besoin de devoir se réarmer?
Je pense que c'est moins une question de mentalité. Pour moi, c'est surtout une question de réalisme. C'est que les Européens se rendent compte qu'ils font face à un environnement de menace et à un environnement stratégique qui est complètement différent de ce qu'ils ont vu il y a 30 ans et qu'ils doivent aussi se protéger parce que cette idée de se reposer sur la fiabilité des États-Unis est peut-être pas la bonne, que les US mettent vraiment en question la valeur de l'Alliance transatlantique et aussi la volonté de protéger les Européens.
Voilà l'analyse de Gesine Weber, chercheuse en sécurité et défense européenne au Fonds allemand Marshall des États-Unis. Merci de votre fidélité. Retour de l'information à 13h. Une très bonne journée à toutes et à tous.